scientifique dans les oreilles. Les doctorants vous emmènent à la découverte du monde de la recherche. Par Nantes, ADBS et le Labo des Savoirs.
Bonjour Constance, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Bonjour, donc je m'appelle Constance Delward et je suis actuellement en deuxième année de doctorat de recherche en biologie santé à l'Institut du Thorax à Nantes.
Comment en êtes-vous arrivée à réaliser un doctorat ?
Eh bien, finalement, je ne suis pas prédestinée à faire de la science dans ma vie. Quand j'étais petite, je n'étais pas forcément intéressée par ça. Et puis en arrivant à la fac de sciences de Nantes en licence de biologie, eh bien, je me suis découvert un amour pour la science et puis avec les années pour la physiologie et particulièrement la cardiologie. Après, j'ai réalisé un master qui permet de faire un doctorat de recherche. Et puis à l'issue de ce master, donc BBRT, j'ai obtenu une bourse pour faire un doctorat.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre sujet de recherche ?
Donc je travaille sur le prolapsus valvulaire mitral. La valve mitrale, c'est une valve dans le cœur qui peut être représenté schématiquement par une porte à deux battants et donc qui s'ouvre et se ferme à chaque battement cardiaque. Et donc moi, je m'intéresse aux 2 à 3% de la population qui développe une défaillance de cette valve mitrale. Et les patients sont envoyés au bloc opératoire. Ils subissent une opération cardiaque lourde. La défaillance de la valve mitrale peut entraîner une insuffisance cardiaque et cette insuffisance cardiaque amène d'une part à un essoufflement des patients, une diminution de la condition de vie et il se peut que les patients soient envoyés au bloc opératoire. Donc c'est pour ça qu'on doit trouver les mécanismes qui font que la valve dégénère. C'est ça qui est mon projet de recherche.
Un conseil à donner aux étudiants qui hésitent à poursuivre en thèse ?
Moi personnellement, je ne me suis pas dit dès mes 5 ans que je voulais être chercheuse en cardiologie. L'amour pour la science, ça se développe, ça va se chercher et ça s'entretient au fur et à mesure des études, des stages, des années et aussi de notre entourage. Donc si j'avais un conseil, ce serait d'essayer d'être curieux, d'aller regarder à droite et à gauche différents sujets qui peuvent potentiellement nous intéresser et puis ensuite de se dire si ça m'intéresse, je me lance, j'ai pas peur de pas réussir et puis je tente l'expérience parce que dans tous les cas, ce que nous apporte un doctorat, c'est très formateur pour la suite, même si on décide de se réorienter.
Merci.
De rien, Chloé.
Des scientifiques dans les oreilles.
Bonjour Sophie Burel, merci beaucoup d'avoir accepté de réaliser cette interview. Donc ensemble, nous allons en découvrir un peu plus sur les différentes carrières, l'impact de nos différents choix dans le monde de la recherche, notamment via votre parcours. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter et nous dire un mot qui représente la recherche pour vous ?
Bonjour, merci pour votre invitation. Donc, je m'appelle Sophie Burel, je suis ingénieure de recherche en biologie et actuellement je suis donc en transition entre 2 postes. J'ai quitté un poste d'ingénieur de recherche à l'Institut du Thorax à Nantes au mois de mars 2021 et d'ici quelques semaines, je vais prendre un nouveau poste au sein du CHU en tant qu'ingénieur recherche et développement. Et donc, concernant un mot qui résume la recherche, je dirais curiosité.
Ah, je pense que c'est un mot qui représente très bien la recherche et qui vous représente bien parce que nous en discutions avant l'interview. Vous avez réalisé un doctorat il y a quelques années. Quelles étaient vos sources de motivation, peut-être la curiosité, et quel a été votre cheminement avant de vous lancer dans cette expérience unique ?
Moi, j'ai fait des études de sciences à la fac de Nantes en suivant une licence en biologie cellulaire physiologie animale, puis en suivant le master biologie santé à Nantes, avec le parcours en deuxième année de master, le parcours biologie, biotechnologie et recherche thérapeutique. Parce que justement, moi, ce qui m'intéressait dans les sciences, et en particulier dans les sciences du vivant, c'était d'en apprendre plus sur les mécanismes de régulation, la façon dont fonctionne le corps humain, et aussi en particulier les mécanismes à l'origine des pathologies humaines. Et c'est justement cette curiosité de savoir comment se passent les choses de l'échelle moléculaire, cellulaire, puis ensuite à l'échelle d'un organisme qui vraiment, moi, m'intéresse dans la recherche. Et oui, vraiment, la curiosité, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important dans notre domaine. Et je pense que si on n'est pas curieux, intéressé, c'est compliqué de se lancer dans la recherche.
Et donc, à la suite de votre doctorat, vous êtes parti à l'étranger pour réaliser donc un post-doctorat. D'abord, expliquez à nos auditeurs ce qu'est un post-doctorat, en quoi ça consiste. Et ensuite, nous dire pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous orienter vers un post-doc et qu'est-ce que vous retenez de cette expérience.
Alors, donc, un post-doctorat dans le domaine de la recherche, c'est en fait le contrat qui va suivre la thèse. Une fois qu'on a fini notre thèse, généralement, on peut choisir de continuer à travailler dans la recherche académique ou on peut se diriger vers un autre domaine. Mais si on continue à travailler dans la recherche académique, le type de poste qu'on va avoir après une thèse, c'est souvent celui d'un post-doctorat. Et le post-doctorat, si on doit le décrire, en gros, c'est un peu la première étape où on va être un chercheur junior, on va dire. Donc on a fait une thèse, on a acquis de l'expérience pendant la thèse et pendant le post-doctorat, on va pour la première fois être vraiment un peu plus maître de son sujet de recherche et on va essayer de le mener de A à Z, de le réfléchir, de le créer, de faire les expériences qui permettent de répondre à la question, d'encadrer les gens qui vont travailler avec nous, éventuellement de chercher des demandes de financement. Donc c'est vraiment un peu comme si on était un jeune chercheur en fait en formation. Et donc moi, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire un post-doctorat ? Ça peut paraître un peu contradictoire parce que moi, après ma thèse, je savais déjà plus ou moins que je ne voulais pas justement être chercheur. Mais pour autant, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de faire un post-doctorat parce que pour moi, c'était une occasion rêvée de continuer à travailler dans la recherche, qui de toute façon continuait vraiment à m'intéresser. C'était l'occasion de partir à l'étranger parce que pour le coup, c'est assez facile quand on a fait une thèse, ensuite de trouver un post-doctorat un peu partout dans le monde, en fonction des thématiques qui nous intéressent, des labos qui nous intéressent et des pays éventuellement qui nous intéressent aussi. Et donc moi, c'était vraiment un choix professionnel, on va dire, pour essayer de confirmer ma certitude qui était que je ne voulais peut-être pas être chercheur après, mais pour autant profiter de cette expérience et de cette porte ouverte pour continuer à apprendre, découvrir une autre culture, découvrir un autre pays, une autre façon de travailler. Enfin, pour moi, c'était vraiment une expérience tout entière et pas qu'une expérience professionnelle. Et c'était aussi l'expérience d'améliorer mon anglais. Parce qu'un des critères pour moi, si je partais en post-doctorat, c'était de partir dans un pays anglophone. Et donc, j'ai choisi de partir en Écosse pendant 2 ans. Et pour moi, c'était vraiment un des critères au fait que je parte, c'était... Voilà, si je pars dans un pays anglophone pour améliorer mon anglais, pour acquérir cette compétence-là.
C'est vraiment la multitude, en fait, des avantages qu'offrait le post-doctorat, en l'occurrence, que vous avez réalisé, qui vous a fait prendre la décision de continuer, alors que vous saviez que vous étiez peut-être amené à partir en réorientation professionnelle, tout en restant dans le même domaine. J'ai une question pour des auditeurs qui pourraient se demander et avoir des doutes peut-être sur leur avenir et avoir peur de la réorientation parce que c'est souvent lié à des changements de vie, peut-être de style de vie, de métier. Je pense que c'est un concept qui est quand même assez moderne de se réorienter 1, 2, 3 fois dans ses études et même dans sa vie. Et donc ça fait la richesse des jeunes générations, mais aussi c'est une source d'angoisse et de précarité certaine. Donc, quel retour d'expérience pouvez-vous nous faire là-dessus ? Qu'est-ce que vous auriez à dire à un étudiant qui se pose des questions à la fin de son doctorat sur un potentiel post-doc et puis sur l'incertitude en fait, de son avenir ?
Alors, en fait, je pense que ça dépend de ce qu'on met derrière le mot réorientation. Parce qu'en fait, des réorientations, on peut voir plusieurs choses derrière ce mot, je pense. Dans la recherche, c'est vrai que quand on fait une thèse, généralement, la voie qui nous est présentée et qui est toute tracée, non pas qu'elle soit facile, hein. Au contraire, elle est extrêmement difficile en France, mais la voie qui est plus ou moins la voie qu'on nous présente quand on est à la fac, c'est on fait une thèse, ensuite on fait un post-doc, c'est préférable à l'étranger pour justement acquérir une autre expérience. Ensuite, on revient en France, on passe les concours et on devient chercheur pour mener ses projets de recherche, etc. Ça, c'est vraiment la voie qui est un peu la voie toute dictée et pendant longtemps, je pense que même si c'est en train de changer, on avait l'impression que c'était la seule solution, en fait. Quand on avait une thèse, c'était devenir chercheur après. Alors, on peut éventuellement déjà parler de réorientation si on se rend compte que non, chercheur, c'est pas pour nous. Mais par exemple, on aime quand même toujours faire de la science. Et on va peut-être potentiellement toujours vouloir travailler dans un laboratoire académique. Donc là, on va pouvoir envisager des carrières peut-être plutôt d'ingénieur, justement, ingénieur recherche, recherche et développement, que ce soit dans l'académique, justement, ou dans le privé, dans des industries pharmaceutiques, dans des start-up. Donc ça, éventuellement, on peut parler déjà de réorientation. Et après, on peut parler de réorientation au sens plus large, en se disant, j'ai fait une thèse en science dans un labo, mais en fait, ça ne me convient pas, ou c'est pas ce que j'ai envie de faire par la suite, et je vais vouloir faire autre chose. Et moi, sur ça, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur, en fait, d'essayer autre chose, parce que quand on fait une thèse, on acquiert énormément de compétences. Évidemment, les compétences, les connaissances qu'on va accumuler au cours de nos études, puis au cours de la thèse, les compétences techniques qu'on va développer, mais on acquiert aussi beaucoup de compétences en termes de gestion de projet, d'adaptabilité, d'organisation. On peut développer des compétences en langue si jamais on est parti un peu à l'étranger ou on a eu des projets en partenariat avec des labos à l'étranger. Donc on va vraiment développer des compétences multiples et généralement, je pense que ça fait que les gens qui ont fait une thèse sont des personnes assez adaptables qui vont savoir rebondir assez facilement. Et donc si à un moment, il y a une envie de se réorienter, je pense qu'il faut se poser la question, il faut y réfléchir, il faut prendre son temps pour réfléchir, il faut en parler autour de soi. Mais il ne faut pas avoir peur d'éventuellement vouloir changer de voie. Pour moi, il n'y a rien de honteux ni de mal à se dire « En fait, j'ai essayé cette voie-là, c'était bien, ça m'a plu jusque-là » ou au contraire, ça ne me plaît plus et j'ai envie de changer. Et il faut le faire, il faut franchir le pas en étant accompagné, en prenant des infos à droite, à gauche. Et il ne faut pas hésiter.
Et donc, est-ce que finalement, votre mot du début qui pour vous représente la recherche, qui est donc la curiosité, serait pas lié finalement à cette capacité d'adaptabilité qui, si on vous écoute, représenterait aussi les acteurs du monde de la recherche, et notamment les personnes qui ont fait un doctorat?
Si, complètement. Moi, je pense que pour pouvoir faire de la recherche, il faut être curieux, il faut être intéressé, il faut avoir envie d'en apprendre plus sur sa thématique, évidemment, mais aussi sur ce qui se fait à côté, sur les nouvelles techniques, sur ce que peuvent nous apporter d'autres personnes qui vont peut-être travailler dans des domaines éloignés, mais au final... Peut-être qu'ils vont avoir des compétences qui vont pouvoir nous aider sur un projet. La curiosité, pour moi, c'est important. Et c'est peut-être aussi parce qu'on va être curieux d'aller voir ailleurs qu'à un moment, on peut se dire la recherche telle que je l'ai faite jusqu'à présent, c'était super bien. Mais peut-être que je vais découvrir quelque chose de super bien aussi en faisant autre chose un petit peu différent. Pourquoi pas de la vulgarisation scientifique, de la communication, de la recherche clinique. Ça ouvre à quand même beaucoup de portes. Et je pense qu'il faut être curieux pour essayer d'aller justement pousser ces portes et voir ce qu'il y a, ce qui s'offre à nous.
Si on se recentre un peu sur vous et votre carrière, vous pourriez décrire à nos auditeurs à quoi ressembleraient vos journées en tant qu'ingénieur de recherche. Donc, c'est-à-dire une fois que vous aviez fait votre doctorat, votre post-doc, et donc que vous êtes revenu en France et pour prendre un poste d'ingénieur de recherche.
Une journée type, je pense qu'il n'y en a pas forcément et ça va dépendre des périodes de l'année en fonction de l'état d'avancement du projet. Mais généralement, la journée d'un ingénieur de recherche, elle va se découper entre des expériences qui vont être faites à la paillasse, donc des manipulations, des temps d'analyse de résultats, de mise en forme de ces résultats pour ensuite les présenter, par exemple, lors de réunions d'équipe. Une journée d'un ingénieur de recherche va aussi comprendre des temps de formation, parce qu'on est souvent impliqué dans la formation des stagiaires ou des doctorants, des jeunes doctorants par exemple qui arrivent dans une équipe. Il y a souvent un ingénieur ou un technicien qui va prendre en charge les nouveaux arrivants pour les former aux techniques qui sont menées dans l'équipe. Et puis, il y a aussi une partie de gestion de la vie d'un laboratoire. Donc, un ingénieur de recherche peut aussi être amené à... effectuer des commandes, anticiper des demandes d'équipement, de choses comme ça, pour qu'en fait le laboratoire fonctionne, que tout roule en fait. Tout le monde a sa place et tout le monde a son rôle à jouer, mais l'ingénieur de recherche, il va être assez central, je pense, dans le rôle d'une équipe, parce qu'il va vraiment être...
Polyvalent.
Polyvalent, complètement, et le lien peut-être un petit peu entre les chercheurs qui, au fur et à mesure de leur avancement dans leur carrière, justement, vont être... de moins en moins disponibles pour pouvoir former leurs étudiants, pour pouvoir leur montrer certaines techniques, etc. Et puis, justement, les nouveaux arrivants. Donc, je pense que l'ingénieur a vraiment un rôle central à jouer pour justement cette cohésion d'équipe et que tout se passe bien dans le déroulé du projet.
Est-ce que vous aviez appréhendé, vous avez eu peur de finalement choisir de quitter votre poste d'ingénieur de recherche à l'Institut du Thorax sans avoir derrière un contrat ni même finalement de proposition déjà faite.
Je dirais pas que j'ai eu peur, j'étais même plutôt sereine, je pense, quand mon contrat s'est arrêté. C'était un mix de facteurs, mais c'était quand même ma volonté de mettre fin à mon contrat d'ingénieur de recherche à l'Institut du Thorax, parce que j'avais envie de changer un petit peu, j'avais envie de changer un petit peu de domaine, d'explorer autre chose. Potentiellement, à un moment, je me suis dit pourquoi pas aller dans l'industrie, enfin, faire quelque chose de plus appliqué. C'était vraiment quelque chose qui me poussait. Donc c'était ma décision, et je pense que parce que c'était ma décision, j'étais assez sereine. Je me suis aussi dit, bon, bah, j'ai du temps. Alors certes, je vais être au chômage sans doute pendant quelques mois, puisqu'en effet, quand j'ai quitté mon poste, je n'avais pas encore de piste. J'avais fait quelques candidatures spontanées, mais je n'avais pas de réponse. Donc, c'est vrai que je ne savais pas où j'allais. Mais j'étais quand même assez sereine parce que je me suis dit que voilà, si au bout de 6 mois ou 1 an, je ne trouvais pas dans ce que je voulais, je pourrais justement peut-être éventuellement me réorienter un peu parce que, à nouveau, comme je disais tout à l'heure, on acquiert quand même beaucoup de compétences quand on est en thèse qui sont valorisables et qui sont recherchées, je pense. J'avais pas peur. Je savais que je ne voulais pas être au chômage pendant 1 an, clairement. Je voulais vraiment trouver assez rapidement. Mais non, j'avais pas d'appréhension. Et en plus, je savais que je serais pas mal occupée parce que j'ai profité de ces quelques mois de chômage pour me consacrer à des activités associatives. Finalement, le temps ne m'a pas paru long. Tout s'est plutôt bien passé et j'ai pu assez rapidement trouver un nouveau travail. Donc, pour moi, ça a vraiment pas été une période d'anxiété ou quoi que ce soit.
Et si on vous donnait l'opportunité de recommencer, c'est-à-dire si vous étiez Sophie Burel en Master 1, est-ce que vous changeriez quelque chose? Qu'est-ce que vous vous diriez? Et puis, est-ce que finalement, là où vous êtes actuellement, eh bien, ce serait là où vous vous retrouveriez une nouvelle fois?
En fait, je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours, donc non, je crois que je ne changerais rien du tout.
C'est beau.
J'ai déjà réfléchi à cette question, pour être honnête. Je crois que j'ai été hyper chanceuse dans mon parcours parce que tout s'est très bien passé pour moi. Je sais que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et ça peut être vrai dans des labos comme ça peut être vrai dans d'autres types d'entreprises. J'ai eu des encadrants et en particulier une encadrante de thèse qui a toujours été très bienveillante envers moi, qui était à l'écoute, qui m'a formée, qui m'a transmis toutes ses connaissances. Et du coup, ça m'a lancée sur vraiment les bons rails pour ma thèse. J'ai aussi eu la chance de faire ma thèse à l'Institut du Thorax où il y avait une super bonne ambiance de travail au quotidien, donc ce qui rend le travail très agréable. Et après, après, j'ai fait le choix de partir en postdoc. Alors même si en fait, c'est vrai que j'étais à peu près sûre de ne pas vouloir occuper le poste de chercheur, je savais quand même que je voulais continuer dans la recherche. Et du coup, le postdoc, je suis aussi hyper contente de l'avoir fait parce que pour moi, ça a été vraiment une expérience professionnelle, mais surtout personnelle, hyper enrichissante. Et je pense qu'il en plus est valorisable sur un CV parce que ça montre, quand on part en postdoc, qu'on sait justement s'adapter, on n'a pas peur de changer d'environnement et de bousculer un peu ses habitudes. Et moi, c'était aussi pour ça que je suis partie en postdoc. C'était pour un peu me bousculer, pour sortir un petit peu de ma zone de confort et de vivre autre chose. Et voilà, et après le postdoc, j'ai eu la chance de pouvoir revenir en France, occuper à nouveau un poste d'ingénieur de recherche, cette fois-ci dans le labo où j'avais effectué ma thèse. Et je pense que ce parcours, il a aussi joué dans le fait que j'ai obtenu donc le futur poste que je vais occuper dans quelques semaines, ingénieur recherche et développement, parce que il y a des atouts qui ont été appréciés, je pense, le fait d'être justement adaptable, d'avoir acquis pas mal de compétences, de parler anglais, ça a été vraiment apprécié. Donc non, je pense que je ne changerai rien.
Merci Sophie Burel d'être venue aujourd'hui répondre à nos questions. Cet épisode des scientifiques dans les oreilles est maintenant terminé. Il a été réalisé par Dunia Saez du Labo des Savoirs. Retrouvez l'association Nantaise ADBS sur Facebook et LinkedIn, ainsi que l'ensemble de nos épisodes sur Spotify. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.